écoutez Prof tout court, un balado pour le bulletin Perspective SSF du service de soutien à la formation. Je suis Jean-Sébastien Dubé, votre animateur. Bonjour, bienvenue au balado Prof tout court. Notre invitée d'aujourd'hui, Isabelle Boisclair, est professeure titulaire au département d'art, langue et littérature. Elle détient un post-doctorat de l'Université du Québec à Montréal. Ses thèmes de recherche principaux sont la représentation des sexes, des genres et des sexualités dans la littérature, les théories féministes, queer et les études culturelles, les littératures québécoises et les littératures francophones, sans oublier, bien sûr, l'écriture des femmes. Pour la rubrique « Prof tout court » du Perspective SSF d'octobre 2022, elle signe un article où elle nous parle notamment du plaisir d'enseigner. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jean-Sébastien.
Pour débuter notre conversation, j'aime demander aux gens que j'interviewe ce qui a le plus changé dans leur façon d'enseigner entre le début de leur carrière puis leur enseignement d'actuel.
Écoute, j'ai réfléchi à cette question-là et j'ai rien trouvé. J'ai l'impression que je suis restée la même. C'est pas nécessairement un bon signe, c'est comme si je n'avais pas évolué. Mais je pense que peut-être, ça va paraître prétentieux, mais une des qualités que j'ai peut-être en tant que pédagogue, c'est d'être naturelle. Fait que ça, je suis restée naturelle du début à la fin. J'ai toujours... Peut-être les premières fois, j'ai revêtu une persona professorale, j'ai peut-être joué au professeur ou à la professeure, mais c'est vite parti sur le terrain en le faisant. Donc, c'est ça, je pense que ça, je suis restée pas mal la même dans ma façon d'enseigner.
Puis au niveau peut-être du rapport aux étudiants, ça a toujours été la même chose?
Oui. Ouais. Moi, j'ai une conception très marxiste d'une certaine façon. Je dis toujours qu'on est dans un atelier. Il y a deux métaphores que j'utilise souvent. On est dans un atelier, on était là pour essayer. Je pense souvent aux ateliers d'art plastique. Tu prends un pinceau, t'essayes. Ça ne veut pas dire que tu vas faire un chef-d'œuvre tout de suite. Puis on ne s'attend pas personne à ça. Mais on essaie des choses. Et même chose, donc, je dis toujours qu'on est des ouvriers, comme des ouvrières du texte ou... On fait ce travail-là et c'est pour peut-être diminuer les attentes ou les idéaux qui nous forment, alors que faire de la critique littéraire comme j'en fais, c'est juste lire des livres et en parler, en rendre compte. Puis c'est ça, c'est une job. Bon, et enseigner des textes, c'est ça notre job. Puis apprendre à lire des textes, c'est ça notre travail d'ouvrier, d'artisan. Fait que je dédramatise beaucoup, voilà.
Dans le texte que vous signez dans le numéro de Perspective SSF, ça s'appelle « Retrouver sa classe et le plaisir d'enseigner ». J'ai l'impression quand même, juste en quelques mots, pour nos éditeurs, que vous nous parliez, puis nous racontiez un peu comment vous l'avez perdu, votre classe, mais surtout, comment vous avez retrouvé et la classe et le plaisir d'enseigner.
Je l'ai perdu subrepticement, je dirais, parce que, comme je disais, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai compris vite qu'il fallait être soi-même et qu'il fallait... je suis toujours spontanée, assez animée, donc je n'ai jamais eu de problème à animer une classe. Et je suis aussi, presque... pas sans gêne, mais moi, si je pose une question, j'attends pas que les mouches volent, j'attends pas qu'on attende les mouches voler. Je vais prendre ma main et pointer un étudiant ou une étudiante, mais qu'est-ce que tu en penses? Puis je leur précise toujours, dès la première fois que je fais ça, j'ai écouté, je vais vous pointer du doigt, vous êtes dans ma classe, vous êtes mes étudiants, c'est avec vous que je travaille. Donc, quand je vous pointe ou que je te dis, toi, Denis, qu'est-ce que tu en penses, toi, Julie, c'est pas pour vous coincer, c'est juste pour susciter le dialogue, point barre. Si t'as pas lu le texte, à la limite, c'est toi la pire, tu hausses les épaules, puis je vais passer à un autre appel, tu sais, je vais aller voir. Mais moi, je veux quand même parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la classe, je veux leur parler. Donc, si je pose des questions, puis personne me répond, j'en pointe un du doigt, c'est tout. Et c'est important qu'ils comprennent que c'est un esprit de c'est ça, pour les coincer. Et donc... mes classes ont toujours été relativement bien animées. Les étudiants sont présents et présentes, ils répondent et on discute et on échange. Évidemment, ça dépend de ce qu'on parle. Et des fois, c'est l'exposé magistral qui prend plus de place, mais bref. Et comme je disais, subrepticement, à un moment donné, c'est comme si j'avais plus d'étudiants devant moi. Mais je dis subrepticement parce que ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Au début, tu dis, coudonc, j'ai plus la touch ou il y a quelque chose qui marche plus. Puis, je me suis rendu compte, bien sûr, qu'il y avait quelqu'un qui s'était interposé, quelque chose, en fait, qui s'était interposé entre eux et elle et moi. C'est les fameux écrans d'ordinateur. Parce que même quand je voulais... je prenais ma main pour pointer quelqu'un, Il n'y a personne qui me regardait. Fait que, si elle ne peut pas voir quand je la pointe, elle ne peut pas me répondre. Elle a les yeux sur l'écran en train de taper ou de regarder son Facebook ou ses photos ou les courriels ou je ne sais quoi. Ça m'a embêtée, mais là, sur le coup, tu ne réagis pas parce que à la limite, tu es gênée de faire face à ça. Ben voyons, Facebook ou je ne sais pas trop. Puis ça te remet en question. Mon cours n'est pas intéressant. S'ils vont ailleurs aussi, ils font d'autres choses. Et, mais au bout de... Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. À un moment donné, j'ai dit non, ça, j'ai plus de fun, ça ne marche pas. Je veux des étudiants dans ma classe, des étudiantes aussi. Donc, j'ai dit, je l'ai annoncé comme ça quand j'annonce le dossier pédagogique au premier cours. Pas d'ordinateur dans la classe. Entre le constat et le temps que je réagisse, j'ai lu. Puis là, paraissaient de nombreux articles de plus en plus, parce que le phénomène, je n'étais pas la seule à le vivre.
C'était généralisé.
C'est ça. Et donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça affecte les résultats, puisque même si toi, tu es une étudiante ou un étudiant appliqué, que ton ordinateur est ouvert vraiment pour prendre des notes, ton voisin, ta voisine, la personne d'en avant va te distraire forcément parce que son Facebook, une photo, le courriel est ouvert ou que sais-je, d'une part. Et d'autre part, d'autres études plus neurocognitives vont montrer que y a quelque chose d'organique dans l'écriture qu'on ne retrouve pas dans le fait de taper sur un clavier, qui est beaucoup plus mécanique. Je fais le même geste avec mes mains pour taper un P ou un A, un N, un I, un E, un R pour faire le mot panier. Mais si je l'écris avec ma main, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est encodé depuis longtemps. On a appris l'écriture manuscrite depuis la petite école et il y a quelque chose qui se passe. On le sait dans la tête que c'est le mot panier qu'on a écrit. Et là, c'est un exemple trop banal, mais si, voilà.
Mais il y a moyen d'annoter aussi, là. Effectivement, c'est très rare que l'étudiant qui recopie va prendre le temps de mettre en gras certains passages.
Exactement.
Alors que déjà, en général, l'étudiant qui écrit de façon manuscrite va souligner des choses, va mettre des étoiles.
Tout à fait, va faire des flèches. J'ajoute ça aussi à mon écrire de la majuscule, faire une étoile, faire une flèche avec ce qui a été dit plus haut. Alors que oui, ça se peut sur l'ordinateur, mais pas live, pas sur le coup. Fait que je leur dis ça et je leur rappelle que de toute façon, c'est plus indiqué dans les programmes. Dans l'énoncé des programmes, mais je me souviens quand j'étais jeune et que j'étais à l'université, il y avait toujours des chiffres en dessous des titres de cours. C'était 3-0-3 ou 3-3-0-3-0-6. Donc, on a, en principe, 6 heures de travail à accorder pour 3 heures de cours. Puis les deux chiffres, la division entre 0 et 0, c'était soit du travail personnel, soit du travail de laboratoire, qui était prévu, qui était attendu. Donc, je leur rappelle qu'ils ont du temps à accorder, c'est sûr, à faire les lectures qui sont demandées, si c'est le cas, mais aussi, je vous fais prendre ce temps-là pour... recopiez vos notes, ça va vous préparer à l'examen, ça va vous... Et là, tu peux l'organiser la matière puisque tu as le temps. Et la matière organisée, ça aussi, c'est ça qui structure la pensée, donc qui favorise la compréhension, alors que taper bêtement, j'allais dire bêtement, je ne veux pas dire ça, mais taper mécaniquement, encore une fois, ça n'a pas la même opération. Par ailleurs, dans le même esprit, je leur propose, ou en fait, j'ouvre la possibilité, parce qu'ils et elles font bien ce qu'elles veulent, de compléter les notes, de se mettre à deux sur un Google Doc, de compléter des notes ou à trois ou à quatre, ou apparemment, il y a déjà eu un groupe classe qui l'a déjà fait ensemble. Une de mes étudiantes m'avait parlé de ça. Mais donc, ça m'apparaît important pour plein de raisons, parce que ça complète les notes qu'on n'a pas toujours le temps de prendre. C'est du partage de savoir, de la co-construction du savoir. Et c'est aussi... je vois ça comme un partage de richesses, parce qu'il y en a qui ont plus de compétences que d'autres, plus de connaissances que d'autres. Et le savoir, c'est pas... oui, on peut dire que c'est un capital, mais on peut la jouer en mode capitaliste ou en mode socialiste, je pourrais le dire comme ça. Donc, j'ai des savoirs et je les garde pour moi, jalousement, parce que je veux être le meilleur et la meilleure, avoir les meilleures notes du cours. Je peux aussi partager mes savoirs, à m'enrichir des savoirs des autres et s'assurer qu'on soit tous et toutes assez riches, qu'on soit toutes... puis là, je leur donne l'exemple. Par exemple, si on a la plus belle maison dans un quartier X, qui n'est pas un quartier riche, ta maison, elle va être dévaluée. Mais une maison, une bonne maison dans un quartier où il y a plein de belles maisons, puis je ne parle pas de maisons richissimes, bien, tout le monde en profite des richesses collectives. Donc, ça aussi, je le mets de l'avant par la bande, là, quand je parle de l'ordinateur et de ce qu'on peut faire avec l'ordinateur.
Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de technophobie dans ces choix-là. C'est pas, c'est vraiment le fait de prendre des notes qui bloquait les discussions.
Tout à fait.
Parce que je pense même que dans votre texte, vous évoquez qu'à la maîtrise, il n'y a pas de problème pour vous.
Oui. Déjà, on les sent plus engagés à la maîtrise. C'est déjà un engagement supplémentaire. La classe est plus petite. Et souvent, on fait des ronds. Donc, moi, si quelqu'un est seul, qu'il n'y a personne derrière, à la limite, je ne jouerai pas à la police. Mais je pense que j'ai rarement vu un étudiant ou une étudiante à la maîtrise ou au doc faire autre chose que d'être présent ou présente.
Ceci dit, on en a parlé un peu hors d'onde, mais c'est un débat. Il y a des gens qui pensent, au contraire, qu'on est en train de former des futures personnes professionnelles qui vont devoir savoir se servir judicieusement des technologies au travail, notamment des ordinateurs portables, pour avoir assisté à des réunions où des collègues font exactement ce que vous décrivez que vos étudiants font. Donc, il y a des gens qui vont dire il faut, au contraire, que la formation universitaire prépare les étudiants et les étudiantes à se servir de ces outils-là de manière appropriée. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ah, je réponds tout bêtement, certes, mais il y a de très nombreuses occasions pour se préparer à s'en servir de manière appropriée hors de ma classe. J'ai juste décidé que ce ne serait pas dans mon cours. C'est tout.
Vous disiez aussi que dans vos classes de maîtrise, par exemple, vous les encouragez à aller chercher de l'information sur un auteur en ligne, puis tout ça, puis de ramener cette information-là.
Ouais.
Parce qu'on le sait, c'est une génération justement où l'information est partout.
Ouais.
Puis ils vont parfois la chercher, puis là, ça peut devenir utile au cours.
Le cerveau, ça encombre au fil des années. Hein? Puis des fois, tu cherches le nom d'un auteur ou d'une autrice. Crime, t'es en littérature, ça va pas bien. Je peux demander, justement, dans un séminaire, c'est quoi le nom déjà de tel auteur? Des fois, ils le savent, elles le savent, elles me répondent tout de suite. Mais sinon, je Google donc tel titre. Mais tu vois, dans les séances de bac, il n'y a pas d'ordinateur, mais je désigne un ou une assistante qui va faire... Je leur dis, il y a deux tâches principales que je demande à cette personne-là. Souvent, dans un exposé... Il y a des questions qui surgissent. Les étudiants me demandent, oui, mais ça, j'aimerais avoir une référence, tout ça. J'ai OK. Puis là, moi, plutôt que de m'arrêter puis de noter, ça briserait le rythme. Puis je sais que je vais l'avoir oublié tantôt. Fait que j'ai un assistant ou une assistante qui me note et qui me fait un courriel par semaine pour me dire, n'oublie pas de mettre ceci en ligne, de mettre ceci ou de mettre ceci sur le Moodle. D'une part, c'est une de ces tâches que je lui demande. Et l'autre, c'est justement, elle peut utiliser son téléphone, pas les autres. Okay. Donc, elle peut... Les autres, on range les téléphones quand je commence mes classes, c'est toujours la même phrase. Mais sauf cette personne-là qui peut, je lui demande de googler des choses des fois. C'est en quelle année déjà ce roman-là?
Dans votre texte, vous avez évoqué justement le climat d'ouverture que vous essayez de créer en classe. Je vous cite, « Dans les discussions, on peut se tromper. Il n'y a pas d'enjeu vital. Chacun est invité à se joindre à la discussion, à dialoguer dans le respect. » Puis vous mentionnez que c'est un apprentissage, selon vous, essentiel en sciences humaines au moins. J'aimerais ça que vous nous parliez de cet apprentissage du dialogue puis du climat nécessaire pour l'atteindre parce qu'on sait que ça ne va pas de soi.
Je suis étonnée que ça n'aille pas soi. Pour moi, ça va de soi quand il dit ça. Mais en même temps, je comprends à quoi on peut faire référence. Je pense que les images qui ont été construites, justement, de la figure professorale ou de l'enseignement, on a vu trop de films où un étudiant était moqué par un professeur ou une professeure et recalé ou traité d'idiot ou d'idiote. C'est des choses qui me répugnent et je suis certaine que je ne suis pas la seule à qui ça répugne. Mais donc, je vais toujours souligner... l'intérêt d'une remarque ou d'une question, relancer d'autres personnes si la réponse... Je veux qu'on aille plus loin, relancer d'autres personnes. Mais je ne sais pas comment le dire, à quel point c'est important pour moi, qu'il n'y ait personne qui rit de personne, qu'il n'y ait personne qui lève les yeux au ciel quand quelqu'un parle. Il y a quelque chose qui m'horripile là-dedans. Moi, quand quelqu'un... Je l'ai dit tantôt, j'essaie d'instaurer un climat de laboratoire, on essaye, qu'on n'a pas à rire de personne qui se trompe. Se tromper, ça se peut, c'est pas grave. Être dans le champ, quand on répond à une question de la professeure, ça se peut, et c'est pas grave. Et il y a personne qui doit rire de ça. On cherche. OK, non, pas tout à fait, mais on continue à chercher, on se relance. Et puis, ben c'est ça. Là, parfois, il y a des dialogues. Ça va toujours dépendre des cours. Dans les cours de littérature, c'est rare que les dialogues s'engagent entre les étudiants et les étudiantes. Mais dans des cours, par exemple, en études féministes, ça, c'est courant. Mm-hmm. On essaie toujours de rappeler, parce que c'est des cours qui, bon, qui font appel au vécu de chacun. Pas qu'ils font appel, la théorie ne fait pas appel à ça, mais la théorie fait écho au vécu de chacun et chacune. Et j'essaie toujours de rappeler que nos interventions, on doit les mesurer. Ça, le premier cours, c'est tout le monde est bienvenu pour parler. C'est juste que tout le monde doit être conscient et consciente de la distribution de la parole dans une classe. Ça ne veut pas dire de ne pas intervenir souvent. Il y en a que c'est leur nature, puis il y en a que c'est leur nature de star. Mais donc, de mesurer la pertinence de ce qu'on s'apprête à dire, et si c'est une expérience personnelle qu'on s'apprête à rapporter, bien, de s'assurer de toujours faire une synthèse qui ramène à ce dont on discute cette journée-là, et non pas juste l'anecdote pour l'anecdote. Mm-hmm. Donc, en tirer une réflexion qui est liée avec le cours. Je suis loin de ta question, peut-être. Je suis loin de ta question,
peut-être. Je trouve pas, au contraire, parce que justement, quand je disais ça allait pas de soi, il y a effectivement le rapport entre le prof et les étudiants, rapport d'autorité, tout ça, mais au-delà de ça, les étudiants entre eux, en tout cas, il m'apparaît que la salle de classe peut devenir un laboratoire aussi, je dirais, de paroles citoyennes ou démocratiques ou tout ça. Et c'est là où je le disais, ça ne va pas toujours de soi. Ouais. Que, bon, entre autres, il ne faut pas se le cacher, par les réseaux sociaux. Puis ça, il y a toutes sortes d'expériences de paroles, disons, moins saines. En tout cas, moi, je me questionne souvent sur ça. Est-ce que la salle de classe ne peut pas devenir un endroit où on essaie d'enseigner, je dirais, le désaccord intellectuellement porteur?
En sciences humaines, ce qu'on apprend à faire ultimement, j'ai le goût de dire, ce qu'on apprend à nos étudiants et nos étudiantes à faire, c'est penser. Ça a l'air presque méprisant de le dire comme ça, comme s'ils ne savaient pas penser. Ils savent penser. Mais formaliser une pensée, structurer une pensée, la formuler, et c'est souvent à travers moi, dans ma tête, penser, lire, écrire, c'est très interrelié. Howard Becker disait, je pense, écrire ses pensées, mais lire aussi ses pensées. On peut lire sans crayon et lire sans penser, mais c'est quand on est formé aux sciences humaines, un temps soit peu, et qu'on a appris à penser, ça se peut pas qu'on ne pense pas en même temps qu'on lit. On va penser, on va prendre une note dans les marges du texte. Puis là, je ne dis pas qu'en dehors des sciences humaines, ils ne pensent pas. Je fais une distinction entre réfléchir et penser, peut-être, mais c'est sûr qu'il faut réfléchir pour résoudre un problème de mathématiques, de génie et tout ça. Mais penser, ça veut être aussi créer. Il faut réfléchir à ce qu'on dit, il faut réfléchir à ce que l'autre nous répond. Il y a quelque chose de l'engagement aussi. Il faut prendre parole, assumer une parole, assumer une position. Je parle d'ici et je dis cela. Et ma position, c'est celle-ci. Ta position et celle-là, elle est différente. On peut quand même dialoguer, etc. Ouais, il y a quelque chose qui ressemble à ça.
Bien, en partant des sciences humaines, je vais vous ramener aux études littéraires. Notamment autour de la pandémie, on a entendu beaucoup dire « Ah, la culture est tellement importante, notamment pour la santé mentale. » Pourtant, on voit certaines universités, notamment aux États-Unis, mais pas que, fermer leur département de lettres et langues ou les agglomérer en études de ci, de ça. Pourquoi enseigner encore la littérature en 2022?
Mais c'est déjà, je veux dire, ça me fait frémir de savoir. Tu sais, quand on le voit dans un journal qu'on a fermé tel département de lettres, ou ça me fait frémir à chaque fois. Pourquoi enseigner de la littérature en 2022? Parce que c'est un savoir qui n'est pas utilitaire, parce que c'est un savoir critique qui est essentiel de nos jours. Puis ceux et celles, justement, qui ferment les départements de lettres ou de sciences humaines, là où on pense, justement, de façon critique, c'est vraiment parce qu'ils ont peur des personnes qui pensent et qui sont capables de réflexion critique. Ils encouragent donc des savoirs utilitaires qu'on peut appliquer, de façon mécanique. Je résume et donc je caricature forcément un peu. Et bien sûr, on a besoin aussi de personnes qui savent construire des ponts. C'est bien utile pour traverser une rivière, on s'entend. On a besoin de tout ça, mais on a aussi besoin des personnes qui pensent le monde. Ça va être utile à la personne qui construit le pont ou qui fait autre chose, pour qui je travaille. Est-ce que je suis en train de construire une bombe ou un pont, c'est différent. C'est quoi ma participation au monde? Et ça, c'est les penseurs, les penseuses de philosophie, de littérature, d'histoire aussi, bon, toutes ces disciplines-là qui nous aident à penser par leurs écrits. Et je pense que c'est pour ça qu'on les ferme. On a peur de cette pensée critique-là. Et pourquoi, donc, enseigner la littérature en 2022? Parce que le rapport aux objets culturels, au discours, aux formes artistiques est fondamental pour comprendre le monde, à mon sens, justement. Mais comprendre le monde, le questionner à travers les œuvres, c'est dangereux. Il y a eu beaucoup de fables, justement, littéraires qui nous ont montré, je pense à 1984 de George Orwell, qui nous ont partagé cette vision-là. Donc, ça peut mener à des conceptions du monde subversives, désobéissantes, et tous les gouvernants, devrais-je dire, ont intérêt à ce que tout le monde obéisse. Donc, la pensée critique est nécessairement un outil potentiel de contestation. Et je dis l'art aussi, même chose, je pense aux œuvres d'art. Donc, partout où on pense de façon critique, ça peut nuire à la domination des gouvernants qui veulent... agenouiller un peuple. Je caricature encore une fois, mais agenouiller des citoyens puis s'assurer qu'ils vont faire ce qu'on leur demande et payer ce qu'on leur demande de payer, ou je ne sais pas trop, là, mais voilà.
En conclusion, peut-être, déjà, votre texte fait vraiment allusion à un moment où le goût d'enseigner était peut-être moins là. Mais je pense que ça peut arriver à tous les enseignantes, chargés de cours, professeurs, d'avoir dans des moments, dans une carrière complète consacrée à la formation, où c'est plus difficile, où on se décourage, tout ça. Mais parfois, on retombe en amour avec l'enseignant. Qu'est-ce qui fait qu'Isabelle Boisclair retombe en amour avec l'enseignement?
Bien, j'ai toujours aimé enseigner. Et donc, c'est ça. Mais plus largement, pourquoi on enseigne? Et pourquoi on aime enseigner, c'est un mystère. C'est comme l'amour, peut-être. Mon Dieu, il faut pas que j'aille là. Mais on n'en parle pas si souvent, mais l'enseignement nous procure un sentiment d'exister assez fort, je trouve, et d'exister en relation, justement. Peut-être que ça m'est très cher, cette question de relation-là, à travers les yeux notamment, là. Mais je fais souvent un parallèle avec la communion. Et ce mot-là, pour tout catholique élevé au Québec avant, je ne sais pas, les années combien, peut-être, le mot communion évoque la communion à l'Église. Le mot était un peu usurpé, si on veut, mais il est beaucoup plus large que ça. La communion, c'est beaucoup plus que ça. Et il n'y a pas tant de moments où on peut communier ensemble. Il y a au théâtre, dans des spectacles. Puis au théâtre, c'est particulier, c'est plus que le cinéma, parce qu'il y a d'autres vivants sur la scène. Là, il y a la communion et même chose pour les spectacles de musique. Donc, on est une communauté, petite, moyenne ou grande, toute vouée ou consacrée ou intéressée, en tout cas, en train de vivre la même chose en même temps. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. J'en ferai pas quelque chose de beau, là, écuménique ou idéal. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans quand même, reste que. Et on prend un moment, donc, pour se rencontrer en classe, là. C'est un moment pour se rencontrer et apprendre, réfléchir à quelque chose qui nous intéresse. On l'espère que ça les intéresse. Donc, quand on ramène ça à cette base-là, je trouve ça beau. Et donc, c'est peut-être avec ça que je suis en amour. J'ai déjà fait du théâtre, j'ai aussi joué de la musique dans un ensemble. C'est pas seulement donc les acteurs et les musiciennes qui communient, pas seulement le public qui communie, c'est tout le monde qui partage le moment. Et ce moment est dédié à la beauté, bon, dans les arts, mais dans les classes, ce moment-là est dédié à la connaissance. Et encore une fois, je le répète, je trouve ça bien beau.
Merci, Isabelle.
Merci à toi, Jean-Sébastien.
C'était Prof de cours balado, une production du service de soutien à la formation.